de joie dans vos cœurs. Oui, c'est Anglemort. Oui, pour toi. Et pour toi là-bas.
Et toi, dans le fond.
Oui, bravo. Je vous parle de Céline, je vous parle de trophées, je vous parle de prix. Un autre article dans Le Devoir à ce sujet-là, écoutez. Pour ceux qui l'ignorent, dans leur dernière édition, le Rolling Stone, un magazine très connu, référence musicale internationale, a fait la liste des 200 chanteuses les plus hautes de l'histoire, puis Céline Dion n'est pas là-dedans. Scandale, scandale, scandale. Là, étiez-vous au courant qu'aux Oliviers et à la disque, mais notamment aux Oliviers, il y a spectacle de l'année puis spectacle le plus populaire. Spectacle de l'année, c'est un jury. C'est entièrement subjectif. C'est les membres de l'APIH qui votent pour dire « je trouve que c'est ça le meilleur spectacle ». Spectacle le plus populaire, c'est statistique. Qui a vendu le plus de billets, on va le souligner. Pourquoi c'est de même? Parce qu'un n'équivaut pas à l'autre. C'est pas parce que vous êtes le plus populaire que vous êtes nécessairement le meilleur. Et absolument personne peut trancher ça à partir d'une règle, comprends-tu? Quand tu vas en cours, t'as beau être convaincu que t'as raison dans ta tête, faut que t'aies raison selon le droit. C'est que la société dans laquelle on vit, c'est ça. On essaie de régler nos conflits entre nous autres. Puis sinon, ben voilà. Tu dis, bon, ben d'abord, m'appeler à la ville. Mais d'abord, je vais aller en cours. Puis d'abord, je vais aller en médiation, whatever. Mais le gagnant, c'est pas une règle que toi, tu penses qui est la règle. C'est-à-dire, dans la vie, il faut être fin avec ses voisins, mettons. Oui, c'est vrai. Mais là, il fait du bruit. Ah, mais c'est tout mesuré, ça. Il y a des décibels. À 11 heures, il faut que tu arrêtes le bruit. Pour tout le monde. Tu ne peux pas juste dire « moi, ça me dérange », comprenez-vous? C'est subjectif. Si c'est dans ta tête, c'est subjectif. Bon. Céline Dion, es-tu la meilleure chanteuse parce qu'elle a fait une carrière fantastique? Ben non. Quand je dis non, pas que je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de critère pour ça. C'est-à-dire que c'est tes critères à toi. Donc, les gens en partant qui disent « c'est épouvantable avec le succès que Céline a eu. Pardon, c'est une liste de un board éditorial qui dit nous autres, selon nous autres, nos critères. On va décider c'est qui apparaît dans la liste des 200 meilleures chanteuses. Que Madonna n'apparaît pas non plus. Ça, c'est de un. Deuxièmement, très honnêtement, il va falloir qu'à un moment donné, le monde comprenne que c'est ça une critique. Ce débat-là est sans fin, puis ça me fait capoter. Puis là, je vais vous rentrer dans des anecdotes que j'ai vécues. Où est-ce que... Il faut que tu catches que, comme Elisabeth Roy disait, qui est une relationniste qui évolue à Montréal depuis très longtemps, si tu veux pas avoir de critiques négatives, tu n'invites pas les journalistes le soir de la première. Pas parce que c'est systématique qu'il va en avoir, mais parce qu'ils ont le droit, t'es invite, puis après ça, ils disent ce qu'ils veulent, basé sur les critères qu'ils veulent, juste ou injuste. C'est comme ça. Fait que là, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu sortes de la statistique. Mais en toute chose, il faut sortir de la statistique. J'entends des fois du monde dire « Ah, c'est raciste parce qu'il y a une statistique qui dit en France il y a une surreprésentation des musulmans dans les prisons. » Ben non, les statistiques. Après ça, l'explication peut être raciste. On sait bien, musulmans, c'est tous des bandits. Ah! Ça fait qu'il peut avoir une explication totalement factuelle. Ça peut... Puis encore là, ça peut être sujet à interprétation, mais la statistique elle-même ne devrait jamais être interprétée comme autre chose qu'un fait. Donc, Céline Dion, est-ce que c'est vrai qu'elle a battu les records en s'installant au Caesars Palace, etc.? Oui! Est-ce qu'elle a vendu tant d'albums plus que toute autre fille? Je pense que c'est la femme qui a vendu plus d'albums. Elle, Whitney Houston, Barbara Streisand, c'est là-dedans. Est-ce que c'est hot? Giga hot. Est-ce que tout ça égale que je suis obligé de dire plus égale c'est la meilleure chanteuse au monde? Ben non. Non. C'est tout. Puis d'après moi, elle-même, là, je serais surpris qu'elle soit dans tous ses états en disant « c'est épouvantable, c'est épouvantable ». C'est comme, ben coudonc, ça aurait été le fun d'être jugé de même, par eux autres, OK? Pas par le magazine d'à côté, pas par le Los Angeles Times, pas par le Sun Sentinel, pas par les Américains, pas par les Chinois, tout le monde la connaît. Non, c'est cette gang-là, qui sont peut-être 12, 27, 3, je sais pas. Mais oui, ils ont un label, c'est pour te montrer comment la marque, c'est important. C'est parce que ça sort du Rolling Stone, parce que dans la vraie vie, je le répète, c'est que subjectif. Fait que cette petite gang-là, ben, ils sont dans leur droit total de dire on a écarté lui, on a donné lui, voilà. Françoise Hardy, la plus grande. Françoise Hardy, sérieux. Même en France, le monde ne sait plus c'est qui. J'exagère, là, mais elle est sur la liste, là, tu sais, c'est comme c'est la seule française slash francophone. Ça fait que c'est extraordinaire. Mais moi, ce conflit-là, je l'ai vu toute ma vie. Puis une de mes jobs comme gérant, c'était de calmer les artistes avec qui je travaillais, pour qui c'était ça l'équation. Je me souviens de Jean-Michel Anctil n'a jamais eu vraiment des bonnes critiques. Ces derniers shows, je ne peux pas vous dire. J'en ai vu plusieurs que moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, je trouve ça très bon. Mais la critique ne l'aimait pas parce que tu sais, c'était très populaire. C'était le gars qui fait des personnages, tu sais, etc. Il a vécu toute sa vie, Jean-Michel, avec un espèce de... C'est pas du tout un mépris, un certain dédain de la part des critiques à son sujet, comme quoi, sais-tu quoi, blablabla. Et puis lui, il disait tout le temps, calvaire, comment ça se fait qu'ils disent pas que combien de billets j'ai vendu, puis pourquoi ils disent pas à quel point ça riait dans la salle, parce que moi, vous le dire, là, j'ai vu des numéros de Jean-Michel dans son personnage de Priscilla, là, au Capitole, entre autres, là, qui est une salle très difficile pour l'humour. Le Capitole, je m'excuse, là. C'est pas pour rien que tout à coup, il y a plus de show d'humour, là. La disposition des tables, tout ça, là, ça fait en sorte que c'est comme... Il faut être solide, là, grave. Ben moi, là, je vous le dis, les murs bougeaient. Je m'en souviens encore, c'était moi qui étais le gérant et qui étais le producteur, parce que à la fin des 2 ans de tournée de son premier show, à peu près, à un moment donné... À Juste pour rire, ils ont dit « Ouais, là, on n'est pas sûr si on va retourner, là, on continue-tu? » Parce qu'à chaque fois, Québec et Montréal, je l'ai déjà expliqué, c'est des investissements. En tournée, tu vends le show, tu ramasses ton chèque. Mais Québec et Montréal, c'est toi qui loues la salle. Bon, tu peux faire des coprods, mais dans ce cas-là, tu louais la salle. C'est-à-dire que là, tu louais le Capitole, ou tu louais le Grand Théâtre, ou tu louais le Barousseau. Puis on sentait qu'on était... Puis moi, j'avais fait « Hey, non, moi, je le sais qu'on peut continuer, tu sais. » Puis ça fait qu'ils nous avaient remis la prod. Parce qu'ils ne peuvent pas t'empêcher de faire des shows, mais ils ont le droit de dire, mais nous autres, on ne pousse plus. T'sais? C'est qu'on avait repris les droits, puis on avait fait un ou deux autres runs au Capitole de 3 soirs. Puis Guy Laforce était embarqué dans le temps avec moi, parce que lui-même, il disait, non, il dit, moi, je le file, on va en vendre encore des tickets. Puis un de ces soirs-là, me semble que c'était un de ces soirs-là, parce que quand Jean-Michel arrivait en Priscilla, tabarouette. Je te dis, le rire de même du monde... J'ai vu 2 numéros qui ont tout arraché dans ma tête, puis il y en a plein d'autres. Mais il y en a 2, là, où ce que j'ai fait, calvasse que ça, tu peux pas, une foule peut pas rire plus que ça. C'est Jean-Michel en Priscilla, puis McLeod avec son numéro sur le mariage. Où est-ce qu'il rit du mariage, puis il rit, dit... J'appelle ça les murs bougeaient, tu sais. Je sais pas si dans ma tête, j'ai vraiment vu ça, là, j'ai une illusion d'optique, mais je sais pas pourquoi l'expression s'est sortie seule de même. Je me souviens de ça. Je m'étais dit, calvasse, les murs bougent, tu sais. Ça riait tellement. Fait que Jean-Michel, fin de la parenthèse, vous doutez bien que c'était comme, les critiques, là. Vous n'êtes pas capable de dire là, que vous trouvez que c'est un petit peu insignifiant, puis c'est un petit peu facile, ou c'est un petit peu ce que vous voulez, mais que ça rit à mort. Puis que, incidemment, la 2e tournée de Jean-Michel Anctil a fait un record encore, c'est lui qui a le record, de, je crois, 575 000 billets vendus. Man, on est au Québec, là. Ça fait que c'est toujours les mêmes affaires, c'est toujours les mêmes arguments. Ouais, ben là, d'abord, ça veut dire que c'est tous des crétins qui viennent me voir, puis blablabla, puis... Puis là, je suis en train de faire comme si je trouvais que les récriminations de Jean-Michel n'étaient pas bonnes. Non, le blablabla, c'est ce combat-là. C'est ce combat-là que j'entends encore, de faire comme... Man! Et là, vous parlez au gars qui a eu la pire critique d'humour de l'histoire. C'est moi. Quand, en 2004... Je suis sorti Testostérone, j'ai écrit « Moi, si j'étais une fille », j'ai sorti un show avec ça, qui était une espèce de spectacle-conférence. Donc, j'avais pris mon livre, j'avais résumé ça, c'était les 7 erreurs que les filles font quand ils rencontrent un gars. Ça fait que j'étais encore dans ma zone. Puis, C'était un show, honnêtement, là, je le referais mot à mot aujourd'hui, là, c'est exactement la même affaire 20 ans plus tard. Pas un mot que je changerais. Pas un mot. Questionnons-nous sur c'est quoi l'évolution sociale qu'il y a eu à travers ça, là? 0%. Mais bref, j'ai joué justement à la petite salle du Capitole, qui était quand même 600 personnes. Je l'ai tourné un peu, tu sais, ça n'a pas été un gros hit. Mais je l'ai joué dans Juste pour rire. Je suis allé au Monument national en bas, la salle Hydro-Québec, puis on a fait 10 soirs. Et le premier soir, avant la première, ça avait été mais un hit, là. On se disait tout, tabarouette, ça va revoler. Puis le lendemain, à la première, ça a été de glace. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est... Tu sais, tu le sais, hein? Tu le sais en coulisses. En coulisses, moi, quand je joue au Jésus, là, j'entendais l'ambiance, je me dis ça va revoler à mort. Puis quand le monde était là, qui jasait, comme s'il était dans une bibliothèque, j'ai fait, hey boy, aujourd'hui, ça va être plus tough. Puis c'était de même ce soir-là, puis c'était le soir de ma première. Et la critique dans le journal de Montréal, c'était ma photo avec... Puis là, je vous défie de penser à un pire titre que ça de l'histoire, là. Si je vous dis, c'est quoi le titre de la critique la plus négative que tu peux inventer pour un humoriste? C'était écrit... T'avais mon nom, tout petit, là, tu sais, Marc Boilard, deux points, en gros, là. Il s'était gâté, là. Prétentieux et plate. Hey, man... D'abord, un humoriste prétentieux, ça n'a aucun sens. Tu fais comme... Comment il est prétentieux? La prétention puis l'humour, c'est à moins que tu fasses du Martin Mac, là, t'es rendu complètement... Mais normalement, c'était parce que là, tu voyais que ça, c'était pas rigolo, là, c'était vraiment pour me blaster. Puis on va rajouter un petit bonus, on va dire aussi qu'il est plate. Et calvasse! Ça a tué tout. Ce projet-là, qui vraiment avait un vrai potentiel, ça l'a tué raide là. C'est que je pourrais moi-même dire, maudite critique à merde de ta... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la game à 100%. C'est-à-dire que l'artiste a le choix de faire ce qu'il veut. Hein? Les critiques n'ont aucun contrôle sur ce qui est présenté. Rien. Niet. Moi, demain, je peux retourner. Je le fais d'ailleurs. Loue un bout le Jésus, je suis allé, vous connaissez mon... Si vous me suivez, vous connaissez mon chemin des deux dernières années pour m'évertuer à trouver c'est quoi le show que je peux faire. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé une piste nouvelle, again. C'est un projet compliqué pour moi, ça, c'est comme tellement... Ça n'est plus... Mais je le dis, puis personne ne m'empêche de le faire. Je le fais si je veux, point barre. Ben, sais-tu quoi? Eux autres, ils disent ce qu'ils veulent. Alors, je suis content? Non. Est-ce que le soir même, j'ai fait... Si eux autres avaient été là la veille... Il aurait probablement pas aimé ça, mais il aurait été obligé de voir ça autrement. Parce que le problème avec les critiques, c'est qu'ils ont... De toutes les critiques, de toutes, c'est qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes le travail. Ça fait que c'est tout le temps des observateurs. C'est jamais du monde qui peuvent dire « Ouais, attends une minute. » Alors, ils sont en partie complètement influencés par la réaction ou des fois pas du tout à l'extrême. Ça fait que moi, si j'ai un reproche à faire, c'est un reproche de définition même, c'est-à-dire... J'ai un reproche organique à faire aux gens qui font la critique, c'est qu'ils n'ont pas pratiqué eux-mêmes le truc. C'est pour ça que quand tu fais une critique de show, comme moi j'ai fait sur Nantel ou autre, ben Guy, je veux dire, j'avais certains bémols, je vous l'avais dit. C'est un spectacle de haute voltige, mais c'est pas vrai que c'est le plus drôle qui roule actuellement. C'est pas vrai. Il y a des spectacles qui sont... Les murs bougent pas à Guy Nantel. Mais c'est très bon, j'ai ri tout le long. Mais calvaire, je connais ça assez pour savoir que c'est... Puis que ça vient qu'une démarche. Guy, sur Twitter, a répondu à mon angle mort que j'ai fait là-dessus en disant, Marc, comme d'habitude, c'est super argumenté, ton affaire, etc. Quand est-ce que Guy Nantel dit ça d'une critique bonne ou mauvaise? Ben non, parce que calvaire, je sais c'est quoi. De l'intérieur. Fait qu'est-ce que les gens du Rolling Stone savent c'est quoi de l'intérieur chanté? Est-ce que c'est tous des chanteurs qui ont eu des carrières... Ben non. Ça fait qu'eux autres, ils regardent ça entre pseudo-experts. Oui, mais j'en ai écouté des albums. Ben oui. Ma mère en a vu des Juste pour rire à TV. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, elle m'appelait, elle disait, « Hey, j'ai tant de temps, mettons, Maxime Martin, que je travaillais avec, elle le savait, tu sais, elle connaît ce que je fais. » Au début, là, il y a 20 ans, là. « Ah, elle dit, je viens de voir Maxime Martin, tu m'en parles, puis... mais je ne l'ai pas trouvé drôle. » Tu sais. Elle l'avait vu au Démon du Midi. C'est tourné devant un autobus des cardiaques de l'Hôtel Dieu de Lévis. À midi, avec un éclairage de centre d'achat. Mais man, elle connaît pas ça. Elle a dit, il est pas drôle. Ben non, il est pas drôle. C'est impossible d'être drôle dans ce contexte-là. On les envoyait parce que c'était le début d'une notoriété, comprends-tu? C'est tout, là. Mais comprenez-vous que là, je parle de ma mère, que je ne peux pas accuser de ne pas connaître ça, bien, je suis obligé de vous dire qu'il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas nécessairement plus loin. Ils sont quand même dans ces eaux-là. Tu fais comme... Tu connais pas ça. Puis tu vas en voir, puis tu connais pas plus ça. Parce que tu continues à regarder ça comme un spectateur articulé. Un spectateur, mais qui écrit bien. C'est pas tant impressionnant comme critique, tu sais. Mais c'est pas supposé offusquer personne. Voilà. Un qui avait de la misère aussi, c'était François Morancy. Je me souviens qu'on avait des grosses discussions où je disais, man, il faut que t'en reviennes. Il y avait un gars dans Éco-Vedette qui s'appelait Samuel Pradi. Puis lui, il n'aimait pas François. Puis à chaque occasion qu'il pouvait le planter, il le plantait. Puis, écoute, ça le mettait, là, tu sais, genre, il y en avait pour deux jours. À... Puis souvent, ça, c'est l'autre affaire, souvent, puis le pire, c'est qu'ils ont raison, parce que je l'ai vécu, souvent, cette réaction-là, très, genre, hargneuse envers la critique, c'est parce que on se dit, ouais, mais là, ils ont un impact sur ma carrière. Ça peut être vrai, mais il faut que ce soit des cas extrêmes, comme moi, j'ai vécu. Parce que, règle générale, les gens, la critique, tu sais, c'est le bouche-à-oreille qui fait la différence. C'est que si ta critique est bonne, c'est sûr que c'est le fun pour ton ego, pour le business. Si la critique est vraiment difficile, oui, c'est vrai que c'est pas bon pour le business. Mais honnêtement, notamment en humour, là, je peux vous le confirmer. Puis Michel Grenier, qui m'écoute et que je salue, il va vous le dire. Là, des critiques ordinaires, dépendamment, si la critique est ordinaire puis que le show a peu d'impact sur le public, comprenez-vous ce que je veux dire là? C'est pas que la critique est ordinaire, c'est parce que le show a peu d'impact. Il y a du monde qui sont pas faits pour vendre 100 000 billets. Il y a pas 100 000 spectateurs prêts à payer 40$ pour eux autres. Il n'y en a pas. Ça fait que la critique peut être dithyrambique, ils en vendront pas 100 000. La critique peut être pourrie, c'est pas la critique qui a empêché de vendre 100 000. En un mot, là, je vais conclure là-dessus, c'est que sur la critique, là, faites la différence entre c'est une statistique puis c'est une évaluation personnelle. Puis calmez-vous. Puis, sais-tu quoi, j'ai le goût de faire mon coach à deux balles. Dans vie aussi, calmez-vous, tu sais. Dans le sens que, je veux dire, si votre boss, il a décidé que lui, il vous trouve que c'est ordinaire ce que vous faites, bien, c'est plate, mais bon, de un, vous pouvez commencer à chercher d'autres jobs. Vraiment, vous pouvez dire, bon, sais-tu quoi, ici, je suis peut-être plafonné. Ne pleurez jamais parce que vous avez une information. Une information, là, avec ça, on braille pas, on fait comme, ah, ouais, c'est ça qu'on fait. On braille pas, on fait « Ah, ouais », puis on agit. Salut!